Bienvenue dans Questions de recherche, questions d'actualité, le podcast de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Dans ce troisième et dernier épisode de notre série thématique sur la santé mentale, nous abordons la question de l'usage des pratiques privatives de liberté en psychiatrie, des pratiques parfois controversées, telles que le recours aux soins sans consentement, le recours à l'isolement et à la contention, et nous interrogerons aussi l'hétérogénéité de ces pratiques. L'IRDES travaille sur ces questions depuis de nombreuses années et les travaux de recherche ont montré des variations significatives dans le recours à ces pratiques, à la fois entre territoires et entre offreurs de soins, un constat qui pose question. En effet, ces variations posent des enjeux d'équité, de qualité et d'efficience des soins, mais aussi des questions éthiques qui méritent qu'on s'y arrête aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Magali Coldefy, chercheuse en géographie, et Coralie Gandré, chercheuse en santé publique, toutes deux spécialisées dans les services et politiques de santé mentale à l'IRDES. Alors je me tourne vers vous Magali, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les pratiques privatives de liberté en psychiatrie ?
Oui, alors peut-être pour commencer, c'est important de rappeler que la psychiatrie est la seule spécialité médicale où une prise en charge sans consentement des personnes est possible. C'est notamment le cas quand les troubles psychiques vont affecter la capacité de la personne à reconnaître son besoin de soins et à aller vers les soins, par exemple en situation de crise délirante. Dans ce cas, on va considérer que c'est plus l'absence de soins qui crée un préjudice pour la personne plutôt que sa mise en œuvre sans son consentement. L'hospitalisation sans consentement, elle peut ensuite s'accompagner d'autres mesures privatives de liberté pendant le séjour hospitalier. Ça peut être par exemple une mise à l'isolement, c'est-à-dire le fait que la personne soit enfermée dans une chambre isolée, ou encore la contention, notamment la contention mécanique, où la personne va être attachée sur son lit avec des sangles de contention. Ces pratiques sont autorisées en France, mais selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, elles doivent être utilisées en dernier recours et dans des situations de crise. Et du coup, elles font l'objet depuis la fin des années 2010 d'un encadrement législatif de plus en plus contraignant et dissuasif à l'égard des soignants.
Et pourquoi, Coralie, ces pratiques font-elles débat ?
Déjà parce qu'il n'y a pas de démonstration robuste de leurs bénéfices thérapeutiques, donc ça c'est vraiment la première chose, mais aussi parce qu'il y a des effets secondaires, alors déjà physiques, je pense notamment à la contention qui est associée à des risques de déshydratation, d'atrophie musculaire, de phlébite, qui peuvent même aller jusqu'au décès dans les cas les plus extrêmes, mais il y a aussi des effets secondaires psychiques, comme tout le monde peut l'envisager, c'est des situations qui peuvent être traumatisantes et qui vont contribuer à aggraver dans certains cas les symptômes du trouble psychique. Et tout ça, finalement, ça peut venir altérer l'alliance thérapeutique avec les professionnels de santé et du coup réduire le recours aux soins futurs. Et puis, on a tendance peut-être à l'occulter, mais c'est aussi difficile à vivre pour les professionnels. C'est le concept de moral injury, donc de préjudice moral, qui fait que certaines personnes, certains professionnels se retrouvent à mettre en œuvre des pratiques qui sont contraires à leurs valeurs morales. Et ça contribue à une mauvaise image de la psychiatrie et à diminuer son attractivité pour les professionnels. Et puis, c'est aussi des pratiques qui ont la particularité de pouvoir faire intervenir la justice dans la décision médicale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très rare dans le système de santé français. Et peut-être de façon encore plus globale, c'est des pratiques qui vont venir cristalliser les débats qui opposent liberté individuelle et protection de la santé des personnes, un peu comme des débats qui ont eu cours aussi pendant la pandémie de Covid-19.
Dans ce contexte, y a-t-il une volonté politique en faveur de leur limitation ?
Moi je pense qu'on peut vraiment dire ça. La réduction de ces pratiques, elle est à l'agenda politique international, notamment dans le cadre d'une approche de la santé mentale qui est de plus en plus basée sur les droits de l'homme. Donc cette réduction, elle est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de façon plus générale par les Nations unies. Et puis la réduction de ces pratiques, elle est aussi à l'agenda politique national. L'objectif de réduction, il est clairement inscrit dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui guide l'action publique dans le champ de la santé mentale en France depuis 2018. Et puis ce cadre législatif évolutif contraignant dont a parlé Magali précédemment, il va aussi dans ce sens, même si aujourd'hui cette volonté politique, elle ne suffit pas forcément pour mener à une réduction effective du recours à ces pratiques.
Quelle est l'ampleur de l'usage de ces pratiques en France, Magali ?
Alors, les dernières données hospitalières disponibles font état d'environ 100 000 personnes en France qui font l'objet une année donnée de soins psychiatriques sans consentement, que ce soit en ambulatoire ou à temps complet. Ça représente environ 5% des personnes qui sont suivies en psychiatrie en établissement de santé. Donc les soins sans consentement, ils sont quand même relativement minoritaires par rapport au nombre de patients suivis en psychiatrie en France. Parmi ces 100 000 personnes, il y en a 80 000 qui font l'objet d'une hospitalisation à temps plein sans consentement, soit près d'une personne hospitalisée à temps plein en psychiatrie sur 4. Concernant l'isolement, c'est environ 28 000 personnes qui sont concernées ces dernières années par une mesure d'isolement, soit une personne sur 10 hospitalisée en psychiatrie. Et la contention concerne un nombre encore plus limité de personnes, environ 8 000 personnes chaque année qui vont être concernées par une telle mesure. Donc ces chiffres sont loin d'être marginaux et en fait questionnent en effet l'utilisation de ces mesures en dernier recours et surtout que les données disponibles font état plutôt d'une augmentation régulière de ces mesures plutôt que d'une réduction.
Vos travaux montrent une forte variabilité dans le recours à ces pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors déjà, l'hétérogénéité des pratiques entre territoires, elle a été mise en évidence depuis de nombreuses années, déjà pour les soins sans consentement. Dans un atlas de la santé mentale qu'on a fait en 2020, on a montré que ce recours, il variait dans un rapport de 1 à 8 entre départements, donc un chiffre qui est quand même marqué. Cette hétérogénéité des pratiques, elle a été par contre plus récemment objectivable pour l'isolement et la contention suite à la mise à disposition de nouvelles données. Et là, ce qu'on observe, c'est vraiment des variations majeures entre établissements et qui ne sont pas seulement liés à quelques établissements avec des valeurs extrêmes. Pour donner un chiffre un peu illustratif, le recours à l'isolement, il varie du simple double entre le quart des établissements qui en font le plus et le quart des établissements qui en font le moins. Et ce rapport, il est de 1 à 5 pour la contention, donc il est encore plus élevé. Et dans tous les cas, cette hétérogénéité des pratiques, elle ne s'explique pas uniquement par la sévérité des troubles seuls dans nos travaux. Donc ça va vraiment venir interroger l'équité des prises en charge, alors qu'en fait, tous les établissements sont soumis au même cadre légal, hein, qui est un cadre posé au niveau national. Et donc ça tend à montrer une interprétation variable de la notion de ce qu'est une pratique de dernier recours selon les établissements et ce qui vient vraiment poser des questions. Après, je vois quand même une lueur d'espoir dans tout ça, parce qu'il y a aussi certains établissements sans aucun recours à ces pratiques. Je pense notamment au cas de la contention mécanique, où on a autour d'une vingtaine d'établissements qui n'en pratiquent pas en France. Donc ça semble possible et je trouve ça assez encourageant pour d'autres établissements.
Et comment peut-on expliquer de telles variations?
Alors, on a déjà un peu commencé à le dire, hein, mais nos travaux, ils ne vont pas dans le sens d'explications liées uniquement aux différences de besoins entre les personnes prises en charge, même si on voit quand même que le groupe diagnostique qui a conduit au séjour en psychiatrie est un prédicteur du recours à ces pratiques. Donc, il y a quand même un rôle de variable clinique au niveau individuel. Mais par contre, ce qui est important à souligner, c'est que contrairement à des idées qui sont assez répandues, la prévalence des troubles psychiques dans la zone d'intervention des établissements ou la sévérité de leur file active, elles sont palliées à une plus forte probabilité de recourir à l'isolement ou à la contention mécanique. Après, on explique une part relativement faible des variations via les variables qui sont disponibles à l'échelle nationale. Il y a encore aussi des choses qui sont non mesurées ou non mesurables.
Si je peux compléter ce que dit Coralie, en effet, les données quantitatives qu'on mobilise dans nos études, elles sont en effet limitées pour décrire à la fois les organisations des établissements, le fonctionnement des services, des équipes, et finalement expliquer les disparités observées. Mais du coup, on a eu la chance de travailler en collaboration avec une équipe de sociologues et de chercheurs en sciences infirmières dans le cadre du projet PlaidCare. C'est un projet qui vise à étudier des établissements ou services qui pratiquent peu la coercition en psychiatrie et qui a fait l'objet d'une analyse qualitative poussée qui permet un petit peu de compléter notre approche quantitative de ces disparités. Parce que cette étude PlaidCare, elle va mettre en avant des facteurs explicatifs du moindre recours à la coercition qu'on n'aurait pas pu mettre en évidence à partir des données quantitatives. C'est notamment des facteurs qui relèvent de la culture du soin, par exemple, et qui va se traduire à la fois dans la relation de soins entre les soignants et les soignés, en termes de culture de l'accueil, de la disponibilité des soignants et de l'horizontalité de la relation entre le patient et le soignant. C'est des facteurs qui relèvent aussi du collectif du soin, le fait qu'on ressente un soutien entre les membres d'une équipe soignante, qu'il y ait une culture de la positivité, d'une réflexion sur ses pratiques et une acceptation de la prise de risque parce que justement l'équipe se sent soutenue par ses collègues. Un autre élément qui est ressorti de cette étude, c'est tout ce qui relève de l'environnement de soins, avec un environnement globalement apaisant et bienveillant dans l'établissement, avec des espaces, des activités nombreuses, qui sont propices, on va dire, à apaiser les situations de crise. Et également une souplesse des règles, une non-systématisation des règles, par exemple, d'interdiction de fumer dans les services ou de fermer une porte. Voilà, toutes les règles sont discutées et revisitées régulièrement. Et c'est tous ces aspects qu'on ne peut absolument pas observer à partir de nos données quantitatives, mais qui font la richesse et la complémentarité des études mixtes qui essayent d'allier approche quantitative et qualitative.
Est-ce qu'on retrouve aussi ces constats dans les autres pays?
Alors oui, il faut savoir que la possibilité de soins sans consentement en psychiatrie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la très grande majorité des pays dans le monde entier. mais cependant avec pas mal de différences à la fois dans les législations et les périmètres, on va dire, de ces mesures. Par exemple, la possibilité de soins sans consentement à la demande d'un tiers qu'on a en France, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver obligatoirement dans les autres pays. Dans d'autres pays, notamment, je crois que c'est en Italie, dans le cadre des soins sans consentement, il va y avoir une intervention de la police. Ce n'est pas les soignants qui mettent en place cette mesure. Dans d'autres pays, comme l'Islande, toute forme d'isolement et de contention est interdite. C'est le cas aussi en Angleterre pour la contention mécanique, pour les services publics en tout cas. À l'inverse, dans d'autres pays, on va aussi encadrer l'injection forcée de médicaments. C'est notamment le cas aux Pays-Bas, alors qu'en France, ça ne fait pas l'objet d'un encadrement et d'une législation spécifique. Tous ces éléments font que les comparaisons internationales sont à faire avec la plus grande prudence, parce qu'il y a à la fois des variations dans les définitions des pratiques. Par exemple, l'isolement se fait en présence d'un soignant dans certains pays, alors qu'en France, c'est vraiment le fait de laisser la personne seule dans une chambre. Les cadres légaux varient entre pays, les systèmes d'information et les indicateurs mobilisés sont très disparates entre pays, et donc voilà, on appelle à la plus grande prudence dans ces comparaisons internationales.
Après, c'est vrai qu'en ayant bien en tête ces limites dont vient de parler Magali, donc en étant prudent, la France, elle est quand même malheureusement en position assez défavorable, notamment par rapport aux pays anglo-saxons, comme par exemple l'Angleterre, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et dans les pays scandinaves, il y a aussi tout un historique de suivi de l'usage de ces mesures à travers les données, notamment pour piloter des politiques publiques de réduction, qui est assez inspirant pour la France, même si ce qu'on voit finalement, c'est que toute politique volontariste, elle reste assez difficile à tenir sur la durée et qu'une volonté politique, ça ne suffit pas toujours.
À votre avis, que faudrait-il faire pour améliorer la situation ?
Déjà, continuer à suivre la situation à partir du système d'information, avec un accent peut-être à mettre sur la qualité du recueil de ces mesures restrictives de liberté en psychiatrie. Il y a encore des établissements qui remplissent de façon insuffisante, par exemple, le recueil des mesures d'isolement et de contention, et que du coup, nous, on a dû écarter nos analyses, alors que ce recueil, finalement, c'est une obligation légale. Et puis, ce qui est intéressant dans la littérature sur les variations de pratiques médicales, c'est qu'on voit que le suivi et la diffusion de données sur ces variations auprès des parties prenantes, c'est une première étape essentielle, voire même cruciale, en fait, vers leur réduction, à la fois de façon macro, par exemple, au niveau national, mais aussi en intra, au sein des services hospitaliers, parce que ça permet d'avoir un exercice réflexif sur l'usage des pratiques pour voir comment on aurait pu faire autrement. Et cette question de renforcer le système d'information, elle se pose aussi dans d'autres contextes où on sait que ces pratiques restrictives de liberté, elles existent, mais où elles ne sont pas du tout recueillies en routine. Donc je pense par exemple aux urgences, au secteur médico-social, aux EHPAD, à la pédiatrie. Donc il reste encore un certain nombre de choses à faire sur le suivi de ces mesures.
Oui, après, concrètement, sur le terrain, les équipes soignantes, elles sont soumises à des injonctions paradoxales, avec une pression politique, en effet, pour réduire le recours à ces pratiques, mais aussi des obligations de sécurité et de protection des personnes, à la fois de la personne soignée, des autres patients, des soignants et de la population de manière générale. Du coup, elles se sentent souvent démunies par rapport aux alternatives à ces mesures, surtout dans un contexte démographique très défavorable en psychiatrie actuellement. Donc l'idée, c'est, pour moi, ce serait de pouvoir leur offrir justement des alternatives. Et je trouve, par rapport à ça, que l'étude Plaidcare, elle est intéressante parce qu'elle montre que certains services ou établissements arrivent à faire autrement et arrivent à ne pas du tout utiliser la contention et avoir une politique de porte ouverte au sein d'un établissement de santé. Du coup, pour moi, ce qui pourrait favoriser cette situation, c'est notamment de favoriser les échanges de savoir et d'expérience de pratiques entre services, avec des établissements qui ont réussi à réduire leurs pratiques coercitives, voire en abolir certaines, et les services souhaitant s'améliorer. De manière plus globale, sur le territoire, il y a pas mal d'initiatives qui se font pour réduire ces pratiques au sein de certains services ou de certains établissements, et ce sera important de les suivre. Et pour finir, je dirais que pour moi, ce qui est important aussi de manière plus globale pour réduire ces pratiques, en fait, c'est véritablement d'impliquer les personnes concernées et leurs proches dans le processus de soins. Et c'est notamment le cas d'expérimentations en cours sur les directives anticipées en psychiatrie ou les plans de crise conjoints qui ont déjà montré leurs premiers résultats en termes de réduction du recours aux soins sans consentement. Et c'est des choses qui, à mon avis, sont à développer dans le futur.
Un grand merci Coralie et Magali pour ces éclairages. Nous vous invitons à écouter également les deux autres épisodes de notre série, La santé mentale, grande cause nationale 2025, quel défi pour le système de santé, mais aussi les autres podcasts de l'IRDES disponibles sur notre site. Podcast de l'IRDES numéro 5, troisième épisode, enregistré en janvier 2025, propos recueillis par Anna Marek, réalisation Aude Sirvin.